Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous pour le 10h midi de Sud Radio, on commente l'actualité entre 11h et midi comme tous les jours avec vous, 0826 300 300, et puis le Facebook Live également pour nous parler, pour commenter les sujets que nous allons évoquer avec aujourd'hui Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Elle vous a manqué, elle n'était pas là lundi.
Oui,
elle est là
oui.
Aujourd'hui. Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match. On signale les 70 ans de Paris Match. Voilà. Avec un numéro anniversaire.
Un numéro spécial qui sort.
Parlez bien dans le
micro. Numéro spécial qui sort aujourd'hui.
Voilà, avec Sophie Marceau en une. Jean Messia, membre du bureau national du Rassemblement national.
Bonjour.
Bonjour à vous. Et Dominique de Montvalon, journaliste, éditorialiste. Bonjour à vous.
Bonjour Valérie.
Merci d'être là. On va parler, écoutez, du discours de politique générale du Premier ministre, de M. Édouard Philippe. 27 milliards de baisses d'impôts pour les ménages. Est-ce que vous dites merci à Emmanuel Macron? Qui va payer. On va parler également de la PMA pour toutes, qui fait partie de l'une des mesures prioritaires du gouvernement. Alors, est-ce vraiment une priorité? Et puis, le référendum contre la privatisation ou pour la privatisation d'ADP collecte des signatures qui démarre aujourd'hui. Vous êtes déjà nombreux à nous dire que vous êtes allés signer et c'est en train de se transformer en référendum anti-Macron. On va parler de tous ces sujets avec vous et on va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Dominique?
J'ai songé à beaucoup de coups de gueule, j'ai donc choisi un coup de cœur.
Très bien.
J'ai choisi les Bleus au féminin pluriel. L'équipe de France de féminine de football, elle est attrayante, sympathique, elle a des résultats. Je ne sais pas s'il ira jusqu'au bout, je le leur souhaite.
Ouais. Vous pouvez baisser votre sonnerie et ne pas
immédiatement
regarder vos portables.
Non,
oui,
regardez.
Ce n'est pas parce qu'on parle de football et surtout joué par des femmes. Que vous
attention
devez
à vos réflexions,
vous tenir
si
un
limite,
petit
macho,
peu, vous tenir...
Limite macho.
Je ne suis pas sûr que ce soit du machisme. Je les trouve attrayantes, efficaces et extrêmement sympathiques. Voilà, et je leur souhaite le meilleur.
C'est vrai,
vous leur souhaitez le meilleur. Bon, moi, je dénonce une grosse opération de com', mais bon, qui, force est de constater, fonctionne, puisqu'il y avait 9,5 millions de personnes hier soir devant
le
poste.
Et un stade comble.
Et un stade
à nouveau.
Comble, mais voilà, c'est comme ça, ça a fonctionné. Voilà. Les gens ont besoin de communier, d'avoir des événements, d'avoir des choses un peu plus...
Il y a deux choses là-dedans.
Est-ce qu'on a quand même le droit de préférer regarder des femmes qui dansent que des femmes qui jouent au football,
c'est totalement
politiquement incorrect.
C'est totalement incorrect.
Vous voyez où on en est arrivé. Du politiquement correct, alors chacun dit ce qu'il veut.
Il y a le sujet du foot et le sujet des femmes. C'est deux sujets différents. Et donc, le foot, déjà, c'est vrai, ça suscite tout ce qu'on sait autour de ce sport, qu'on est pas forcé d'apprécier. Et puis, il y a les femmes, il faut qu'elles fassent absolument tout ce que font les hommes, il faut faire de la promo, il faut les mettre en avant, etc. Pourquoi pas, mais ça devient insupportable, effectivement. Et dire aujourd'hui qu'on aime mieux voir des femmes dans un ballet que sur un terrain de foot, je vous plains.
Je vous plains, effectivement. Là, je pense que ça va être...
fond de la Sibérie, là, intellectuelle.
Et en plus, dire qu'elles sont attrayantes, ce qui est tout à fait vrai, je les ai trouvées élégantes, jolies.
À tous les sens du terme.
Oui.
Ouais. Bon, on en parle aussi. Regardez le foot,
Je regarde jamais le foot, ni le foot masculin, ni le foot féminin.
Par curiosité,
j'ai regardé quelques minutes du premier match, celui qu'elles ont joué contre la Corée du Sud, qui paraît-il était une équipe pas très forte et dont elles avaient finalement beaucoup de chance et qu'elles avaient beaucoup de chance de dominer, ce qu'elles ont fait. Mais j'ai surtout entendu beaucoup de commentateurs masculins, hommes et parfois des grands spécialistes du foot dire à quel point elles jouaient bien et à quel point leur jeu était maîtrisé. Et je les en remercie. Allez. Parce que moi-même je ne sais pas, mais je les remercie de cet hommage.
Allez, un coup de cœur ou un coup de gueule, Sophie? C'est un coup de gueule.
Oui, absolument. C'est un coup de gueule, parce que ça, c'est encore un des travers français qui signifie bien que tout est bloqué. Figurez-vous que les épilations, mesdames, ça vous intéresse, vous voulez faire des épilations définitives.
Quoi?
Et vous avez pour cela, écoutez-moi un petit peu Dominique, la lumière pulsée est un système pour l'épilation définitive qui concerne énormément de femmes. Eh bien, nous sommes le seul pays au monde où les dermatos, depuis 1962, font une guerre énorme pour que ce soit uniquement chez eux qu'on puisse faire l'épilation définitive à la lumière pulsée. Par contre, vous pouvez aller chez Darty. Non, non, vaste sujet, c'est un sujet économique. Par contre, vous allez chez Darty et vous achetez un appareil à lumière pulsée, vous faites ce que vous voulez avec.
Mais ce n'est pas la même puissance, ce n'est pas la même les mêmes puissance. Appareils non plus.
Ce ne sont pas les mêmes appareils, mais nous sommes le seul pays au monde quand même. Et c'est absurde, il y a une formation qui va avec, c'est simple, c'est facile. Et là, il y a une campagne de pub qui est faite par les dermatos qui veulent absolument garder leur fromage et se garder, alors qu'on a besoin de dermatos d'ailleurs pour tout et partout, pour des sujets j'allais dire sérieux, mais c'est sérieux, l'épilation définitive. Mmh. Et donc, je trouve que c'est encore un blocage français. 1962, un décret qui interdit ça et qui laisse ça aux dermatos. Donc, je voulais dire qu'il fallait absolument rendre au domaine de l'esthétique ce qui lui appartient et qu'au-delà vous pouvez trouver ça inintéressant, Dominique, qu'on veuille se faire épiler définitivement.
Je suis un petit peu surpris, mais je trouve ça très intéressant.
C'est intéressant.
Parce que je n'étais pas au courant.
Et donc, voilà. C'est encore une fois un monopole.
Et c'est la journée où il s'intéresse aux femmes. Oui. À leur foot et à leur poil.
Voilà. Mais j'espère que la journée ne fait que commencer.
Non, parce que je peux vous signaler aussi.
Et le blocage est terrible.
Puisqu'on est sur les femmes, non, je ne sais pas si je vous le
dis.
Je sens que ça va bien. C'est une campagne le 15 juin qui s'appelle Ça va saigner. Montrez vos règles sur Instagram contre la précarité menstruelle. Montrez vos règles contre la précarité menstruelle. Voilà. Donc.
Mais déjà, frais, souvenez-vous qu'on avait demandé dans le grand débat au président de la République de rembourser les garnitures mensuelles.
Menstruelles.
Mensuelles
et mensuelles. Voilà.
Non, mais c'est important parce qu'on est un pays qui est en train de partir dans tous les sens. Et je pense que
restez dans votre créneau.
Virginie, un coup de cœur pour les sauveteurs en mer des Sables d'Olonne.
J'ai entendu depuis quelques heures les témoignages des rescapés. J'ai été très touchée par leur simplicité, leur dignité. Ils racontent comment ça s'est passé. Ils racontent qu'il n'y a jamais eu un énervement ni un cri qui a été poussé par aucun d'entre eux, même au moment où tout semblait désespéré. Et je voulais leur rendre hommage parce que je ne suis pas sûre que beaucoup de Français savaient formait ce corps de sauvetage. C'était essentiellement des bénévoles. Et surtout, peut-être jeter un éclairage sur les difficultés de financement de cette association des sauveteurs en mer, qui ont beaucoup de mal à financer leur bateau, et dire que peut-être cette tragédie pourrait permettre à un certain nombre de Français de s'intéresser au sort de cette association de sauveteurs et peut-être de les aider à se financer pour qu'ils aient des bateaux qui ne soient pas submersibles. Voilà. Oui.
Merci, c'est un coup de cœur effectivement qui est important.
Non, c'est un coup de cœur,
et Jean Messia, on repasse à la politique et
tout
à l'économie
à fait.
Avec
alors,
vous.
Sophie de Menton nous faisait un exposé sur les poils. Moi, j'ai un peu de poils à gratter, si je puis dire.
Je m'étonne de vous.
Oui, exactement. Mais c'est pour ça que vous m'invitez.
Voilà.
Sur l'écologie, ou en tout cas l'instrumentalisation de la question écologique. Par un parti qui se l'accapare, alors que ce n'est pas son monopole. Je veux parler de EELV, Europe Écologie Les Verts. Quand on gratte un peu, j'y trouve un certain nombre de paradoxes. C'est-à-dire que les mêmes qui nous expliquent que la France est un petit pays qui ne peut plus rien faire tout seul, qui ne pèse qu'1% de la population mondiale, sont les mêmes qui vont présenter les mesures écologiques que nous prenons comme étant déterminantes pour l'avenir de la planète. Alors qu'on sait très bien que la France, en plus, effectivement, factuellement, de ne représenter qu'1% de la population, est un des pays les plus vertueux en matière écologique, puisque nous représentons pratiquement le poids de notre population en émissions de gaz à effet de serre. La deuxième, c'est que les mêmes qui nous expliquent qu'il faut sortir du nucléaire quasiment du jour au lendemain, alors que c'est une énergie, l'énergie décarbonée par excellence, d'accord, veulent en même temps que faire peser des mesures écologiques sur les classes populaires. Et donc, quand on décrypte un peu, moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que cette stratégie de crucifixion sociale et fiscale des classes populaires françaises depuis le début des années 80, l'écologie aujourd'hui constitue une poursuite de cette stratégie par d'autres moyens. Parce qu'on ne taxe pas le carburant des riches, par exemple, tout ce qui est kérosène, les grands tankers qui transportent les marchandises d'un bout à l'autre de la planète, qui sont eux les véritables pollueurs.
Le carburant des riches est
C'est une manière de parler, mais par contre, le diesel. Des gens qui sont obligés de prendre leur voiture, qui ne peuvent pas en changer parce qu'ils ont des vieux modèles ou qui fument la clope pour parler comme un ministre, ceux-là, on les matraque. Et donc, moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que cette sortie de l'histoire du peuple français qu'on cherche absolument à pousser depuis 40 années se poursuit aujourd'hui à travers les objectifs écologiques. Et ça, ça m'énerve.
Bon, c'était votre coup de gueule. On se retrouve dans un instant pour parler donc PMA, pour parler baisse d'impôts et puis consigne également. Je ne sais pas si vous avez vu que le Premier ministre a demandé à ce que les bouteilles en plastique soient consignées. 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. L'actualité, donc, c'est évidemment hier les annonces faites par le Premier ministre. Moi, je voulais vous faire réagir sur cette mesure annoncée hier donc, par le Premier ministre lors de son discours de politique générale. Alors, ça rejoint l'écologie, cher Jean Messia. C'est le principe de la consigne des bouteilles en plastique qui va être généralisée en France. Donc, quand vous allez acheter un pack d'eau minérale, il faudra désormais rapporter les bouteilles vides au magasin pour être remboursé, parce que ces bouteilles, elles vont vous être facturées entre 20 et 25 centimes plus cher. Et donc, il faudra les rapporter soit dans le magasin, soit dans des lieux publics. Il y aura des machines spéciales, apparemment. Ça a permis de recycler jusqu'à 90% des bouteilles et canettes dans certains pays comme la Suède et les Pays-Bas. Ça existe en Alsace. Il y a eu des tests, mais plutôt pour les bouteilles en verre. Et donc, il y a un comité de pilotage qui va être créé avec les magasins, les fabricants et les communes. Je sens que le mot comité de pilotage vous fait réagir. Et ce n'est pas sans poser des problèmes, puisque ces bouteilles en plastique, normalement, si vous êtes vertueux, vous les déposiez dans votre poubelle jaune. Ces poubelles jaunes, c'est l'État, c'est les collectivités, plus précisément, qui récupéraient l'argent des déchets de recyclage. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prêt à aller rapporter vos bouteilles d'eau? Est-ce que vous consommez déjà des bouteilles d'eau en plastique?
Oui, alors d'abord, on consomme un peu forcément, même si j'évite, je me suis acheté une gourde à chaque fois que je vais faire du sport, etc. Non, mais c'est vrai, oui. Ça commence par soi-même. Mais bien sûr qu'on achète des bouteilles d'eau et qu'on le fait. Ce qui est invraisemblable dans cette histoire, c'est que le but est louable, mais comme d'habitude, on ne fait jamais confiance aux entreprises. Pourquoi est-ce que le chef du gouvernement ne lance pas un appel en disant « Voilà, nous voulons absolument recycler toutes les bouteilles en plastique. Nous voulons des solutions qui viennent des entreprises, qu'elles le proposent. Et on verra exactement qui bénéficiera, s'il y a une contrepartie financière, qui bénéficiera de l'argent lié à ce plastique. » Mais il n'y a jamais... C'est l'État. L'État a décidé. Donc, il va faire une commission qui va durer, ou un comité de pilotage, peu importe, qui va durer un temps infini. On va s'engueuler. En plus, c'est une mini-réponse. Les mini-réponses, après tout, ça fait les grandes rivières et les petits plastiques font les déchets monstrueux. Donc, en soi, l'idée est pas mal. Il y a encore des gens qui jettent les bouteilles plastiques et c'est navrant. Elles ne sont pas toutes recyclées.
Oui, mais là, je rejoins ce que disait Jean Messia tout à l'heure sur l'instrumentalisation de l'écologie, c'est-à-dire de nous culpabiliser. Évidemment,
vous avez vu les mers, une urgence plastique dans les mers.
Mais évidemment,
c'est pas en France que ça se passe. Surtout l'Afrique, le Moyen-Orient.
Il faut que chacun fasse un effort.
C'est le versant sud de la Méditerranée qui est responsable de ça.
Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait des nôtres?
Alors, non, mais d'accord, les gisements d'efforts en matière d'écologie, c'est pas en Europe qu'on va les trouver.
Non, mais on peut y contribuer.
Vous avez raison, on peut y contribuer et rien n'est à laisser au hasard et c'est sans doute qu'une bonne idée. Mais premièrement, c'est pas là où il y a les progrès les plus importants à réaliser.
C'est
téméraire là, il ferait mieux d'aller manifester en Chine ou en Inde ou de l'autre côté de la Méditerranée où là, effectivement, il y a des marges de progression écologique qui sont beaucoup plus fortes. Je vous rappelle quand même que l'écologie, c'est un problème planétaire. C'est pas les petites mesurettes qu'on va prendre en France qui vont améliorer en quoi que ce soit la qualité de l'air mondial. Faut arrêter avec ça, il faut surtout...
Oui, mais alors, je voudrais malgré tout faire un petit commentaire. Je veux bien que des peuples soient moins sensibles que d'autres à l'écologie et l'habitude de tout jeter par-dessus mer. Mais pour qui a été se promener en France? Et là, je ne parle vraiment que de la France, puisque nous sommes français aujourd'hui autour de ce micro. Et qui s'est promené dans des ports ou dans des endroits où les bâtons font mouillage l'été, il est tout à fait frappant de voir le nombre de détritus et de bouteilles qui sont balancées à la mer. Si ça peut sensibiliser un peu, les Français, ça serait pas mal. L'autre question que je me pose, c'est si je comprends bien, les bouteilles en plastique qui étaient auparavant supposées être remises dans des poubelles étaient récupérées par les collectivités locales.
Les collectivités locales
sont privées d'un revenu. Et je me demande si ce revenu dont elles vont être privées va être compensé par quoi. Et là, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Mais c'est une interrogation.
C'est
une interrogation. l'agrégation qui est très importante pour les collectivités locales qui manquent souvent beaucoup de revenus, qui ont de plus en plus de missions et de moins en moins de délégations financières et qui là vont se retrouver privées.
Par un relèvement de la taxe sur les ordures ménagères, par exemple, ça va se terminer comme ça.
Le Premier ministre veut mettre tout le monde autour de la table pour que personne ne soit perdant. C'est dû en même temps.
J'espère qu'elles ne seront pas perdantes parce qu'elles sont souvent perdantes dans les arbitrages.
Est-ce qu'il faut mettre du fric partout en jeu? Est-ce qu'on ne peut pas demander aux Français de recycler? Non, mais je veux dire, voilà. Alors, apportez-le, on va vous taxer 20 centimes de plus la bouteille.
Enfin, pendant des années, les bouteilles de verre étaient consignées. Moi, je me souviens qu'on les rapportait.
C'était ça.
Mes parents les rapportaient.
Les raccompagnaient même.
Ça faisait partie d'un truc qui était complètement dans l'organisation de chacun. Je ne vois pas pourquoi on ne consignerait pas les bouteilles en plastique. Moi, ma question, c'est celle qui concerne le financement des collectivités locales.
Oui, enfin, il y a juste un mot. Excusez-moi, mais il y a quand même en France 9 millions de pauvres, 6 millions et demi de chômeurs, des tas de gens qui ont du mal à finir leur fin de mois. Je doute que la consignation des bouteilles en plastique, qui n'ont souvent d'ailleurs pas les moyens de s'acheter, fasse partie des solutions révolutionnaires qui vont bouleverser la face économique et sociale de la France.
Je crois que personne n'a dit ça aujourd'hui autour de cette table.
Voilà, donc je veux bien qu'on consacre une demi-heure à ça, mais ce n'est pas non plus le sujet stratégique.
Non, mais ça a été annoncé hier. Alors là aussi, peut-être qu'on peut aborder l'aspect politique de la chose. Ça a été abordé hier dans ce discours de politique générale du Premier ministre.
Est-ce que c'est sa place?
Alors,
écoutez, moi je ressens deux questions. Ce n'est pas parce que c'est un petit geste dans la bonne direction que c'est un mauvais geste ou un geste inutile.
J'ai pas dit ça. Voilà.
Non, mais si finalement, pardonnez-moi, la façon de vous expliquer que de l'autre côté de la Méditerranée, il y a beaucoup plus à faire, vous l'avez exprimé de façon très, très carrée, certes, mais encore une fois, est-ce que c'est dans la bonne direction ou pas? Si c'est dans la bonne direction, c'est aussi une sorte d'éducation citoyenne et civique qui n'est pas à rejeter d'emblée, même si c'est des petits gestes. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que moi j'aimerais, comme consommateur, comme père de famille, comme citoyen donc, j'aimerais que, j'ai bien compris depuis déjà quelques temps, et il était temps que ça se fasse, qu'on a décidé chez nous, ailleurs aussi, c'est déjà, d'autres sont en avance, d'autres sont très en retard, de combattre le plastique qui, alors, Virginie a dit un certain nombre de choses sur ce qu'on pouvait constater dans les coins de route aux abords des ports. On sait aussi que le plastique, je ne parle pas forcément des bouteilles, mais enfin, le plastique encombre le fond des océans de façon épouvantable et pas forcément loin de chez nous.
Exactement.
Chez nous
exactement.
Et ailleurs.
Oui, moi, j'aimerais
les frontières maritimes ne sont pas des
murs.
C'est
vrai que j'ai une tendance, quand j'entends parler d'un comité Théodule j'ai une tendance moi aussi à avoir de l'urticaire. Mais j'aimerais qu'on m'explique globalement quelle est la politique qui va être suivie, parce que je crois que l'intention est excellente. Ouais. Et elle n'avait que trop tardé.
Nous sommes d'accord.
L'intention est excellente. Qu'est-ce qu'on va faire là? Moi, j'ajoute juste une petite chose. Chez moi, chacun doit donner son petit exemple concret. Oui, il y a différentes poubelles pour trier dans le registre et tout. Effectivement, on nous a expliqué que dans l'une des trois poubelles de tri, il fallait mettre les bouteilles en plastique. Mais moi, ça réveille une question que je n'ai pas creusée. C'est comme il n'y a pas que les bouteilles en plastique, font-ils à l'intérieur?
Je me suis demandé aussi.
En tout cas, je retombe sur mes pieds Virginie. En rejoignant Virginie, c'est vrai que j'ai connu, on est nombreux chez les auditeurs, ils sont certainement très nombreux. On a connu une époque où on triait, c'était plutôt des bouteilles
de verre.
Bouteilles de verre. Est-ce que c'est le chemin ou pas? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut combattre dans les marchés, je demande aux marchands uniquement de me servir uniquement avec des sacs en papier. Ça changera pas la marche du monde, mais c'est fait.
C'est vrai que
le problème c'est que c'est pas un comportement individuel, enfin pas que. Il y a 10-15% de comportements individuels et tout le reste des problèmes écologiques que nous connaissons à la fois en France et dans le monde découle d'un modèle économique dont les mêmes ne veulent jamais remettre en cause. L'origine des problèmes écologiques est économique. Donc c'est pas uniquement par des solutions écologiques que nous réglerons le problème. Le libre-échange, le marché mondial, le fait qu'on fabrique des marchandises à des milliers de kilomètres de chez nous.
Il y a du vrai dans ce que vous dites.
Donc,
à vos yeux, tout est vrai, mais
si vous voulez pas remettre en cause...
Ne méprisez pas les petits
petits gestes de la vie quotidienne qui nous éduquent.
Les comportements individuels font un comportement collectif.
C'est que ça sert à...
Un comportement collectif bien éduqué permet d'améliorer sensiblement les choses.
Ne vous excitez pas sur un grain de sable en ne voyant pas la montagne.
C'est pas un grain de sable, c'est une bouteille en plastique.
Je voudrais dire quelque chose. Je voudrais d'abord dire que le verre, vous avez tout à fait raison, mais que la masse des boissons, il n'y a pas que l'eau minérale, il y a le coca, il y a toutes ces boîtes plastiques. Il y a une surabondance de plastique qui n'a plus rien à voir avec les bouteilles de verre qu'on rapportait, qu'on consignait. Attends, je finis.
Donc il y a un effort,
je comprends bien, mais là, le plastique, c'est devenu quelque chose de gigantesque.
Et ça pose un problème.
Je pense que la première des choses, c'est l'éducation des enfants à l'école, parce que leur expliquer tout de suite comment faire. D'ailleurs, c'est eux qui, la plupart du temps, disent et le tri, et ceci, etc. Ils sont écolos dans l'âme, donc il faut éduquer les enfants. La deuxième chose, c'est que je ne comprends pas pourquoi on ne donne pas des solutions aux entreprises, et c'est de là que ça peut venir. Et troisièmement, un problème franco-français, qu'est-ce qu'on fait du pognon, à qui on l'attribue, on l'enlève à un tel, c'est insupportable et ça devrait être hors sujet.
Allez, on nous explique.
Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300, si vous voulez réagir à ce débat, et puis surtout on va revenir sur les différents sujets évoqués hier par le Premier ministre, en particulier la PMA pour toutes et la baisse des impôts. Y croyez-vous ?
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Et le débat continue, vous voyez, le débat sur la consigne, je l'ai rajouté un petit peu au dernier moment parce que je trouvais que c'était un sujet intéressant et vous êtes nombreux à réagir. Tintin vous dit, monsieur de Montvalon, en milieu rural, nous avons les centres de tri pour séparer les plastiques du reste et derrière, il y a des emplois. Et c'est bien ce qu'on disait et c'est bien ce que dit aussi le Premier ministre.
Il y a ça aussi, mais je me posais en ignorant des quelques questions annexes. Je suis sûr qu'il y a des réponses, je vais les chercher.
Sylvie est en ligne avec nous, vous vouliez aussi réagir sur ce sujet, Sylvie, de cette consigne, de la consigne des bouteilles plastiques.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Bonjour madame.
Bonjour. Bon, alors moi je veux réagir parce qu'en fait c'est toujours les mêmes qui se font taper sur les doigts. Donc en fait les grandes entreprises qui fabriquent du plastique, c'est encore nous qui allons trinquer. On va nous mettre un peu plus 20 centimes de plus sur une bouteille pour la ramener. Pourquoi toujours taxer les mêmes ? Après le plastique c'est vraiment le fléau d'aujourd'hui. Mais c'est pareil, comment se fait-il à une période au niveau du plastique, les sacs plastiques ont été interdits à nous être donné quand on fait nos courses. Par contre, c'est autorisé si on le paye. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui, mais c'est vrai.
Après, mais c'est vrai. On nous les donne pas, mais par contre, on a le droit de nous les vendre. Donc, c'est pas logique. Oui. Les consignes, moi, je vois à côté de chez moi, il y a une consigne. C'est pas de 20 centimes la consigne, la bouteille plastique. C'est de 0,01 centime. Ouais. Donc voilà. Donc c'est toujours les mêmes. De toute façon, en France, c'est toujours les mêmes qui trinquent. C'est les grands qui polluent, c'est les petits qui payent. Ouais.
Mais madame, c'est tous les Français qui sont concernés par ce retour de bouteilles. C'est pas que certains Français, pas d'autres.
Oui, mais vous êtes d'accord que votre pouvoir d'achat étant peut-être plus important, vous êtes moins concerné par le fait de récupérer 20 centimes que des gens qui sont à 20 centimes près.
Non, la seule chose à laquelle je pense, c'est que chacun du coup pensera que s'il achète une bouteille, il faudra la rapporter et que peut-être il hésitera à acheter des bouteilles.
Oui, si vous n'êtes pas à 20 centimes près, vous allez l'acheter dans la poubelle et vous n'en avez rien à faire.
Mais ça n'a rien à voir avec la poubelle, c'est un réflexe de survie.
C'est une illustration
parfaite. Réflexe de survie.
C'est une illustration parfaite de ce que je disais tout à l'heure en introduction. C'est toujours les mêmes qui payent.
D'une certaine façon.
Et jamais, c'est devenu la poursuite d'une sorte de lutte des classes, entre guillemets, par d'autres moyens, cette écologie. Et là, vous avez la preuve magistrale, le ressenti est très clair.
De toute façon, on pourra toujours continuer à acheter ces bouteilles plastiques dans un bac où elles sont censées être recyclées. On n'est pas obligé, tout d'un coup, de faire ça. C'est un choix de plus.
Non, mais ces préoccupations ne concernent pas les catégories populaires.
Dans les marchés,
le pouvoir d'achat
dans les magasins,
est très faible, c'est ça qu'il faut comprendre.
Dans les marchés, dans les magasins, on avait... systématiquement, sac plastique.
C'est vrai.
Alors, il y a maintenant des endroits où c'est interdit.
Les gens ont pris d'autres
habitudes. Il y a des endroits, moi je suis étonné qu'on s'étonne. Il y a des endroits où, si vous voulez vraiment un sac plastique, ne serait-ce que vous avez beaucoup de choses à mettre, vous le payez.
Ouais.
Et les autres, ou bien ils amènent, ils font de plus en plus leur propre sac qu'ils ont dans la poche et qu'ils déroulent pour mettre. Ou alors, ils prennent des sacs en papier. Bon, ça se fait progressivement. C'est le délire.
C'est des changements de comportement. C'est des changements de comportement. Mais ça doit passer par les entreprises aussi.
Oui, bien sûr.
J'entendais que Tropicana allait virer
j'entends ça, je trouve ça terrifiant.
Alors, je l'ai lu à vérifier, mais elle est supprimée. Vous savez, le jus d'orange est dans une brique en carton et ils ont décidé de le mettre dans une bouteille en plastique puisque les consommateurs, ils ont fait des tests, veulent voir le jus d'orange. Donc, voilà.
Bah, disons que les entreprises bénéficient d'un truc incroyable qui s'appelle les droits à polluer, qui s'achètent d'ailleurs.
Ah, c'est ça. Donc, encore un système aberrant.
Voilà, les droits à polluer dont les prix ont augmenté et qui, justement, dont l'augmentation explique l'augmentation du prix de l'électricité.
Moi, j'ai une question très, très bête, hein, parce que Mickaël nous dit c'est 20 centimes par bouteille pour une famille avec deux enfants avec 12 bouteilles d'eau par semaine, ça fait une ligne de plus dans le budget. Mais pourquoi vous achetez de l'eau en bouteille? Enfin, globalement, l'eau du robinet en France, elle est très bonne. Hein. Ouais. Moi, je ne jette pas de bouteille d'eau, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses.
Et même les bébés, les pédiatres vous disent dans certaines régions.
Ça dépend des régions.
Régions.
Ça dépend des régions. C'est vrai qu'il y a des régions agricoles, il y a pas mal de saloperies dans l'eau du robinet.
On va changer.
À Paris, même pour les bébés, vous pouvez donner de l'eau du robinet. Je voudrais faire une petite remarque sur quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Je ne sais pas si j'imagine que beaucoup d'entre vous sont allés dans les rayons bio des supermarchés. Vous remarquerez que tous les produits bio sont enveloppés dans du plastique. Et je me suis interrogée sur pourquoi les produits bio étaient enveloppés dans du plastique. Et en fait, c'est parce que s'ils étaient en vente libre ou posés comme ça, comme les produits pas bio, les supermarchés, parce que c'est des produits qui sont plus chers que les autres, les supermarchés craignent qu'il y ait du vol et de la fauche ou qu'on mélange les bio et les pas bio. Donc, ils les signalent par une enveloppe particulière, mais c'est une consommation de plastique énorme et je trouve ça très contradictoire avec la notion de produit bio.
Mais qui a sa rationalité économique.
Allez, on va passer au sujet des baisses d'impôts. 27 milliards d'impôts pour les ménages. Est-ce que vous dites merci Emmanuel Macron? Donc c'est une baisse historique, c'est ce qu'a affirmé le Premier ministre hier. Un gain moyen par foyer de 350 euros pour la première tranche, celle qui est imposée à 14%.
Et qui va descendre à
11%. 180 pour la suivante. Celle qui est imposée à 30%. Donc la tranche va baisser à
11%. Exactement, de 3 points.
Voilà.
C'est juste ça que je voulais.
Donc, ces baisses d'impôts seront votées dans le cadre de la loi de finances. Est-ce que vous y croyez? Comment ça va être financé? Etc, etc, etc. Qui veut répondre? Jean Messia, allez.
Alors, en fait,
mettez les pieds dans le plat.
Quand j'ai fait des études d'économie, on avait un modèle qui s'appelait la théorie du cycle politico-économique, identifié par un prix Nobel d'économie 2018, William Nordhaus, qui expliquait qu'en fait, avant chaque élection, les pouvoirs en place procédaient à une augmentation des dépenses publiques pour donner une espèce de bouffée d'oxygène économique à leur pays, qui ait un impact direct sur les électeurs, afin de pouvoir poursuivre, en fait, acheter en quelque sorte leur pérennité, leur perpétuation. J'ai l'impression que c'est exactement ça qui a été fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a lâché, enfin en tout cas Emmanuel Macron a lâché 10 milliards en décembre, il en a ensuite rajouté en avril, et tout ça intervient, comme par hasard, juste avant l'élection européenne. C'est la première chose. La deuxième chose, quant au financement, vous voyez bien que c'est du keynésianisme pur et dur. C'est-à-dire que 90% de ces mesures, en réalité, vont être financées par un accroissement du déficit. Et les autres, les 10% restants, c'est par un jeu de bonneteau fiscal où on va, par exemple, réduire les niches fiscales sur certaines entreprises, ce qui revient en fait à accroître la pression fiscale sur les dites entreprises qui n'en peuvent déjà jamais, puisque vous savez que les entreprises françaises sont parmi les plus taxées en Europe et probablement dans le monde.
Pas parmi les plus taxées.
Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, c'est une politique qui est keynésienne, qui est électoraliste, qui n'est pas du tout financée. Et pour un président qu'on présentait comme le président de la rigueur, de la compétence des comptes publics, etc., j'imagine que si Marine Le Pen avait été au pouvoir et qu'elle avait eu le même type de politique, j'entends d'ici les cris d'orfraie, si on avait procédé à des dépenses publiques inconsidérées en mettant de côté le dérapage des finances publiques, que n'aurait-on dit? Là, tout le monde s'en félicite, personne ne parle du dérapage de l'endettement.
Alors, je voudrais, moi, m'inquiéter. Il y a eu, finalement, ils ont bien dit, deux phases dans la politique d'Emmanuel Macron que j'ai soutenues. Il a fait des réformes et personne ne peut le nier, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit la loi Pacte, etc. Et ils ont quand même annoncé, OK, voilà, les entreprises, on a fait ce qu'il fallait, top là, terminé, maintenant, on va passer à autre chose. Ce qui est un peu inquiétant, parce que la politique, c'est quelque chose qui est en permanence, on fait en permanence attention à l'univers et aux environnements des entreprises. Deuxième chose très inquiétante, il y a un retour vers l'étatisme. Alors ça, c'est l'autre côté de « en même temps », probablement. C'est l'État qui décide, que ce soit pour l'État actionnaire chez Renault, que ce soit sur le recyclage des bouteilles plastiques, etc. Donc une prédominance de l'État. Et on a totalement abandonné, mais ça nous rend malade, nous les chefs d'entreprise, totalement abandonner la baisse des dépenses de l'État. Alors je veux bien qu'il y ait un contexte très difficile, mais on est cuit si on abandonne ça complètement. C'est pas possible. Ils sont en train de jouer au Shadok. On va donner un peu d'argent là, par exemple.
Vous êtes en train de dire on donne de l'argent qu'on n'a pas.
Mais on en a besoin, donc on va aller le récupérer ailleurs. Et ailleurs, ça va être dans les boîtes. Donc l'économie va prendre un coup de frein. Ce qui s'est passé pour l'impôt qu'on a déplacé sur l'immobilier, on sait que dans 2 ans, c'est mathématique. Dans 2 ans, il va y avoir une crise immobilière énorme parce que les gens vont plus construire parce qu'il y a l'impôt sur l'immobilier. Donc, ouais, je veux dire, alors, je suis inquiète.
Virginie ?
Alors, je voulais simplement rappeler les choses exactement telles que je crois les avoir comprises. Ces baisses d'impôts, déjà, avaient été annoncées par Emmanuel Macron et elles ne concerneront que les classes moyennes qui travaillent, si j'ai bien entendu ce qu'a dit Édouard Philippe hier.
Tous les gens qui paieront des impôts, il a dit.
Non. Non, les classes moyennes qui travaillent, c'est-à-dire que la première tranche qui va être abaissée à 11 va avoir 350 euros d'économie par an et la seconde tranche, 150 euros d'économie par an.
Mais par définition, tout le monde paie ces tranches-là.
La première et la deuxième tranche. Il y a d'autres tranches que la première et la deuxième.
C'est un impôt progressif, donc on est tous astreints. Enfin, ceux qui payent des impôts sur le revenu sont astreints à 1, 2, 3, 4 en fonction de leur revenu, parce que ça progresse, donc c'est tout le monde.
Deux premières tranches.
Je fais remarquer que ça porte sur ceux qui payent des impôts, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Non, je dis ceux qui payent l'impôt sur les revenus verront mécaniquement leur impôt baisser.
Exactement.
Si vous payez l'impôt sur la fortune immobilière, vous baisserez quand même.
Exactement. Et je voudrais rajouter à propos de l'orthodoxie budgétaire, dont effectivement Édouard Philippe était un des chantres, qu'il a fait son mea culpa, si je puis dire. Hier, lorsqu'il s'est exprimé, il a rappelé que, effectivement, c'était un objectif de contenir les dépenses publiques. Il a reconnu qu'elles n'allaient pas être contenues. Et il a dit que, après y avoir réfléchi, il avait pensé qu'il fallait adapter les principes au réel, je cite entre guillemets, et il s'est situé dans la lignée d'anciens premiers ministres comme Pierre Mendès-France, Pompidou, Rocard ou Juppé. Ouais. Je ne sais pas si ça convaincra les Français, mais en tout cas, venant d'un Premier ministre qui lui-même est entouré de ministres de droite qui sont tous, d'une certaine façon, aux manettes financières, ça prouve qu'ils ont quand même dû avaler leur chapeau parce que depuis qu'ils sont rentrés dans ce gouvernement, ils militaient pour un respect pur et dur des règles de Bruxelles. Et c'est vrai élèves, on va devenir très mauvais élèves.
Oui, parce que là, je vois, le Parisien ce matin fait une infographie assez claire. Un couple de retraités qui gagnait 3000 euros va récupérer 150 euros.
C'est ça.
151 euros. 4600 euros de revenus va récupérer 892 euros, et le gain annuel pour un couple qui gagnerait, un ménage qui gagnerait 6000 euros va récupérer 250 euros. Donc il y a quand même beaucoup de...
On rase gratis.
Sans compter que la seule chose qu'il fallait faire, c'est réformer l'État. Et moi, ce qui me désespère, c'est que ce blocage administratif fait que dans le domaine de la santé, où là, s'il faut lâcher du fric, je suis d'accord, on le lâche.
Oui,
le domaine de la santé, ça ne va pas du tout. Mais il faut réformer les structures, il faut faire appel au privé, il faut avoir des cabinets de médicaux de permanence.
On va pas faire des urgences, mais tout le monde a une idée de là où il faut prendre l'argent et là où il faut pas le prendre, etc. Mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est comment on va financer ces baisses d'impôts.
Alors deux choses en ce qui me concerne. Le problème de la dette, de l'argent public, enfin, le problème de la dette, c'est un vrai problème. Et elle s'accroît avec les mesures qui ont été prises. C'est un fait.
Clairement. Hein.
Comment va-t-on financer les mesures qui ont été prises? La question reste entièrement posée.
Mais personne ne la pose, au gouvernement.
Elle est partout dans l'air du temps et dans les discussions, dans nos débats, elle est dans les têtes, y compris des gouvernements. C'est très très compliqué.
Oui, c'est compliqué.
Mais c'est très très compliqué.
Il faut se réformer soi-même.
Pas plus la plupart des ministères, d'ailleurs.
Alors, attendez, laissez terminer
le ministre. Et la baisse de la dépense publique reste un objectif souhaitable, encore plus souhaitable aujourd'hui qu'il était avant-hier. Et effectivement, c'est pour l'instant encore un objectif assez théorique. Mais je voudrais juste répondre. Le deuxième point, c'est juste répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure sur des mesures électoralistes. Attendez, D'abord, si les mesures électoralistes, c'est celles qui sont prises juste avant des élections, toutes les mesures sont électoralistes puisqu'il y a des élections.
Là, il n'y a pas d'élection.
Dans le cas d'un quinquennat, il y a des élections importantes.
Oui, mais là, c'était des élections stratégiques.
Mais il ne vous a pas échappé, puisque vous en étiez, parmi beaucoup d'autres, à l'époque, au début, parmi une majorité, un ardent soutien des Gilets jaunes et de ce que signifiait leur mouvement d'origine. Mm-hmm. C'est pas jamais pris pour un trotskiste ou pour un...
Le mouvement ne l'était pas à l'origine.
Oui, c'est ça. Donc vous faites comme moi, je fais comme vous, pardonnez-moi, le distinguo. Comme ce mouvement était important, attendez, on n'est pas dans la théorie pure. On n'est pas non plus dans ce qu'on apprend à l'ENA ou dans les cours d'économie, etc. Il s'est passé une chose où la France était à bord d'être cul par-dessus tête.
Exactement.
et qu'elle avait un... Donc autrement dit, c'est vrai qu'il a fallu prendre un certain nombre de mesures pour essayer. On aurait pu s'y prendre autrement, on aurait pu depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis que Macron est élu, mais il fallait prendre des mesures qui bouscule complètement la logique qui avait été affirmée au début.
Oui.
C'est tout à fait vrai. C'est pas de l'électoralisme.
Mesure qui avait été appelée par ses voeux, par toute l'opposition depuis des années, et on constate
toutes
que Macron...
Toutes les oppositions.
Toutes les oppositions, et on constate que Macron aurait davantage répondu à la pression de la rue qu'à l'opposition politique.
Oui,
comme tous les gouvernements.
Les oppositions n'ont pas montré une justesse de jugement.
On se retrouve dans un instant, 0826-300-300, on aura Franck dans un instant avec nous, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi, on est ensemble et on commente l'actualité. Et on a Franck en ligne pour nous parler donc des annonces qui ont été faites par le Premier ministre hier. 27 milliards de baisse d'impôts pour les ménages. Bonjour Franck.
Bonjour Sud Radio.
Bonjour.
Bonjour invité. Merci de me donner la parole.
On vous écoute.
J'avais plein de choses à dire en préambule, alors c'est un petit peu long, laissez-moi dérouler, alors je vais pas prendre des heures, mais quand même le temps que je puisse parler. Déjà, je voudrais saluer le débat qui a eu lieu juste avant sur les plastiques, parce que je pense que c'est un débat qui est crucial pour l'avenir, et effectivement, ELLV, on sait qu'il manque pas mal de maturité depuis de nombreuses années, donc il faut aussi reprendre le sujet en main. Et je voulais aussi signaler un truc rigolo sur les bouteilles, c'est qu'il faut savoir qu'une bouteille de limonade dans les années 80, ça coûtait 50 centimes de francs, c'est-à-dire à peine, je crois, 10 centimes d'euros. Aujourd'hui, ça coûte entre 1 euro pour les moins chers et 2,60 euros pour la qualité. Et si on veut des artisanales, on passe les 3 euros.
Mais c'est vrai que là, il nous reste peu de temps, donc je voulais vous entendre plutôt sur les baisses d'impôts. Donc, vous y croyez? Vous êtes content? Vous dites merci à Emmanuel Macron?
Déjà, je voudrais rappeler un débat ancestral entre libéraux et socialistes, qui est la baisse d'impôts directs et la baisse d'impôts indirects, qui revient à la baisse d'impôts sur revenus ou la baisse des taxes ou la hausse des taxes. Donc ça c'est un débat, centenaire. Et je vous renvoie pour ça à cet excellent youtubeur qui s'appelle Franck Lepage, qui fait ses fameuses vidéos et qui vous dit baisse d'impôts, ok, mais baisse de services publics à fond la caisse. Donc là, je pense qu'en ce moment, on traverse une crise des hôpitaux qui est extrêmement grave, qui a lieu depuis très longtemps, donc il faut savoir de quoi on parle aussi. Et je salue pour ça votre invité qui est chef d'entreprise, la dame là qui est chef d'entreprise, qui dit des choses très très bien. Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi que la sensibilité féminine, elle est parfois beaucoup moins expert comptable et beaucoup moins froide que celle des hommes. Et je salue les interventions
Franck,
là-dessus.
Franck, je vais vous demander d'aller rapidement parce qu'il nous reste très peu de temps avant la fin de l'émission. Donc je voudrais juste savoir, la baisse des impôts, est-ce que vous êtes satisfait par ce qu'a annoncé le Premier ministre?
Non, je pense pas. Je pense qu'en plus, les mesures qui ont été prises par M. Macron concernant les Gilets jaunes n'ont pas satisfait réellement les Gilets jaunes. Donc là non plus, on ne sera pas dans quelque chose de satisfaisant.
Mais pourquoi vous réclamiez des baisses d'impôts? Vous réclamiez du pouvoir d'achat? Ça ne vous correspond pas?
Non, je ne pense pas. Je pense que ça, c'est des mesures qui ont été, disons, on s'est focalisé là-dessus, mais le débat est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. C'est un débat de société, c'est un débat aussi de comment recréer la vie politique telle qu'on voudrait la voir vivre.
D'accord. Aussi, mais pour ça, il y a des élections.
Oui, alors il n'y a pas que ça, il y a aussi la question du jacobinisme, d'un État ultra-centralisé que vous évoquiez tout à l'heure, qui dit qu'il prend une décision, ça se répercute sur l'intégralité du territoire, et c'est pas forcément très malin de faire comme ça. Il serait temps un petit peu de régionaliser et de localiser peut-être les problèmes, les problématiques. Ensuite, je voudrais dire une chose qui est très importante, c'est qu'avait reprise Madame Kosciusko-Morizet à l'époque des primaires de la droite, qui consiste à tout axer tout simplement à une taxe unique. Alors moi, moi qui ai travaillé à la direction des finances publiques et j'ai des très bons amis là-bas, et je peux vous dire qu'ils sont plutôt cégétistes qu'ultra libéraux. C'est des personnes qui disent, bah, c'est très simple, hein, si on taxe tout entre 15 et 23%, comme le disait très bien NKM à l'époque, et ben voilà, on fait une chambre de compensation, tout ce qui est acheté, ça passe par une chambre de compensation, on taxe à la source, on redistribue. Ça, c'est des millefeuilles administratives, je termine là-dessus, s'il vous plaît. C'est des millefeuilles administratives, on n'en peut plus de ces millefeuilles, et il faut absolument que ça cesse, et pour ça, il faut revenir à des trucs de base, et je pense qu'il faut une refonte totale du système à la fois économique et politique.
Bon, ça, je suis d'accord, mais merci, ça, c'est simplement pour poser une question, si vous m'y autorisez. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que si les mesures annoncées par Emmanuel Macron n'ont pas satisfait tous les Gilets jaunes, ce qui est possible, ils en ont en tout cas satisfait une grande partie, et notamment les retraités, qui non seulement sont partis de la rue et sont rentrés chez eux, mais en plus ont donné leur vote à la liste d'Emmanuel Macron aux européennes et qui semblaient satisfaits par les mesures prises. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire ça ?
Alors tout à fait, moi je suis pour que les Gilets jaunes soient satisfaits dans leurs revendications d'une façon générale, quel qu'ils soient, d'où qu'ils viennent et quel que soit leur âge. Donc ça c'est très bien. J'ajouterais quand même cette chose-là, c'est que l'avenir, malgré tout le respect que j'ai pour les anciens, et là je tiens à dire que pour ce qui concerne les anciens et nos aînés, ce qui serait bien c'est qu'aussi qu'ils mettent la main à la pâte pour aider les jeunes générations à qui on a eu un gros défaut d'éducation ces 20-30 dernières années, et qu'il va falloir accompagner pour leur donner les clés de la planète correctement, et que la passation se fasse correctement. Alors je dis ça d'une part. D'autre part, je dirais aussi que non. Je pense que c'est un rêve, les Gilets jaunes, c'était un rêve au même titre que 68 l'était, et que ce n'est pas avec des milliards qu'on répond à des rêves. Voilà.
Bah, ça faisait partie. Ça faisait partie. Il y avait des revendications précises. Elles ont été satisfaites pour partie.
Oui, il y avait des revendications précises, et au départ, on est parti sur le pouvoir d'achat quand même. C'était le point de départ, Jean Messia.
Ben, en fait, notre problème aujourd'hui, c'est que nous avons un État social qui est extrêmement ambitieux, extrêmement généreux, mais nous avons de moins en moins les moyens de le financer. Or, pour le financer, il faut d'abord créer des richesses. Notre base industrielle représente encore 10% du PIB, pratiquement trois fois moins que l'Allemagne. Et donc, en réalité, nous ne cessons de nous paupériser, nous ne produisons quasiment plus rien en France, ce qui explique le chômage de masse, ce qui explique, en fait, cette espèce de seringue dans laquelle on est, c'est-à-dire que les besoins explose avec de moins en moins de ressources. Donc effectivement, à un moment, il faut sortir de là, il faut changer de logiciel, il faut avoir une politique plus volontariste de réindustrialisation de long terme. On en voit d'ailleurs déjà les contours dans plein de pays du monde. Regardez ce que fait Trump aux États-Unis, par exemple. Il réussit à relocaliser un certain nombre d'industries, à dissuader des industries de délocaliser. Or, nous avons en France un pouvoir qui reste un pouvoir éminemment néolibéral, managérial, qui est là pour gérer finalement en fin de course les conséquences de processus de marché dont il dit qu'il lui échappe.
Oui, parallèlement à cela, je partage une partie de ce que vous dites, parallèlement à cela, on néglige complètement la partie essentielle, c'est que nous avons le pays le plus redistributif du monde, et ça marche pas parce qu'on le redistribue mal, parce qu'on s'est bouffé par des circuits de distribution, c'est le cas de le dire. Il faut réformer l'État. On a les strates. Non, mais si on comprend pas ça, on est mort. C'est même pas la peine de faire quelque chose d'autre. On rajoute des strates non-stop. On en a rajouté pour les régions, etc. C'est terrifiant. On a un retour d'État. On a vraiment un retour de bâton d'étatisme fondamental. Mais sur tous les plans.
Un peu excessif.
Et surtout notre état social.
Dominique, faites pas votre nounours.
Je vous écoute toujours avec intérêt. Dominique. Et souvent, mentalement, vous approuvant. Et là, ça fait trois fois que vous parlez du retour d'étatisme. Et
notre Moi, je trouve qu'il dirige tout. Il dirige l'âge de la retraite.
On a envie d'un pouvoir.
Il s'occupe des bouteilles plastiques.
Qu'il prenne des décisions, que ces décisions se traduisent dans le concret des Français.
Dans le concret des Français, c'est pas ce qu'ils ressentent. Non, c'est ça.
C'est bloqué.
La philosophie sur l'étatisme.
Et surtout notre État-providence.
C'est Bercy qui est une usine à gaz.
Pas tous en même temps.
Notre État-providence, qui contrairement à tous les États-providence du monde, est un État-providence mondial. C'est-à-dire on finance en gros la terre entière. Vous êtes un immigré qui arrive aujourd'hui sur le territoire.
Si,
au bout de trois mois, vous pouvez
pas
avoir
ça. À deux minutes, vous êtes trop subtil. Vous êtes diabolique. Vous êtes machiavélique. À deux minutes de la fin de l'émission, vous lancez un débat de
fond. Quand on estime que les ressources à redistribuer sont de plus en plus rares, il faut à un moment donné faire des économies sur les bénéficiaires. Vous ne pouvez pas d'un côté réduire les ressources et de l'autre côté élargir la palette des bénéficiaires. Ça ne tient pas. C'est économiquement non viable.
On n'élargit pas la palette des bénéficiaires.
si.
Regardez les urgences de les hôpitaux, Valérie.
Mais justement, enfin, on ne peut pas dire n'importe quoi.
Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, si vous êtes si vous êtes étranger, vous payez vos soins. Voilà,
point.
Choses
à 11h56 quand l'émission.
On ne peut pas faire de débat là-dessus.
C'est un problème général.
Vous voulez lancer, c'est hors sujet en plus.
Non, c'est pas hors sujet. C'est le financement de notre État. Ça fait partie des impôts.
C'est fini pour aujourd'hui. On n'aura hélas pas eu l'occasion de parler de la PMA.
Que les choses soient claires.
Non, mais en tout cas, visiblement...
Non, mais c'est normal, on n'a pas tranché le dernier débat.
Mais c'est très complexe, ça touche à tous les sujets.
Si, la chose sur laquelle vous êtes quand même plus ou moins d'accord, c'est qu'il n'y a pas de financement pour ces bas impôts.
Et pourquoi il n'y a pas de financement?
Ah, ben c'est compliqué de gouverner la France.
Parce qu'il faut faire des économies. Pourquoi il faut faire des économies et comment on fait, comment on s'y prend la tête? Voilà, et on
part. C'est toujours pour les autres.
Non, absolument, c'est vrai.
On se retrouve, nous, demain, et dans un instant, vous allez retrouver André Bercoff.